Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'Extra Nuit.
Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
Oui, non, non, vous ne trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
Don't ever feed him after midnight.
She's alive!
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
How about man? Well, nobody's perfect.
Qu'est-ce que c'est fait? C'est pas quoi faire.
Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne.
Vers l'infini et au-delà!
Il pleut dans la maison de Paloma Sermondai, mais pas dans le studio d'Exter Nuit où l'équipe fait seulement le beau temps sur la critique cinéma. Quelle température pour Black Flies de Jean-Stéphane Sauvert qui plonge les ambulanciers Sean Penn et Ty Sheridan dans l'enfer bouillant d'un Brooklyn nocturne, et pour les plages estivales de Palm Royale, la nouvelle série Apple avec Kristen Wiig. Les saisons défilent dans le Buenos Aires de Los Delincuentes de Rodrigo Moreno, les délinquants en espagnol, et Ethan, le frère Cohen, nous propose un vent de fraîcheur bienvenu le temps d'un road trip psychédélique dans Drive Away Dolls. Mais si le soleil brille si fort dans le studio d'Extérieur Nuit, c'est parce que nos deux anciens chroniqueurs nous font l'honneur de leur présence. Sophie Kat et Emile, bon retour parmi nous. Extérieur Nuit, c'est parti. Breaking news. Alban, bonsoir. Je crois que c'est toi qui nous parles du box-office de la semaine.
Oui, Elisabeth, c'est moi. J'essaie de reprendre la même voix. Alors, le box-office de la semaine, ça commence avec un film dont on n'a pas parlé, au plus grand regret de notre réal Suzanne, qui est Kung Fu Panda 4, qui réalise 826 000 entrées en première semaine. Donc, c'est une très bonne entrée dans ce box-office. La deuxième position est occupée par Dune, deuxième partie, pour sa quatrième semaine, qui fait 304 000 entrées pour terminer le mois, avec un cumul à 3 721 000 entrées, qui pète un petit peu les scores. Et je crois qu'on avait dit plutôt du bien, un petit peu moins bien que le premier, mais on avait dit du bien dans cette émission, il me semble.
Et il te semble bien.
En troisième position, on a une nouvelle entrée aussi, qui est La Promesse Verte, qui fait 176 000 entrées en première semaine. Avec un nombre de copies à 529 et une moyenne de 333. Film dont
on n'a pas parlé, dont on ne parlera probablement pas.
Voilà, c'est ce qui est bien dommage. Kung Fu Panda 4 non plus, nos premiers n'en parleront pas non plus.
Peut-être, je sais pas, qui sera dans notre top de fin d'année, qui sait. Laurent, toi tu nous parles du 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui.
Eh ben, le 14h de Paris n'a rien à redire à Kung Fu Panda 4. Il commence par Godzilla vs Kong, le nouvel empire.
Le deuxième Godzilla de l'année.
Ouais, je sais même plus parce qu'il y a des Godzilla japonais. Ça, c'est un Godzilla américain.
Ouais, mais nous, on avait parlé du Godzilla japonais qui était pas mal.
Celui-là, j'en doute, mais on ne sait jamais. Il fait quand même 811 entrées pour 15 copies, donc une moyenne de 54, ce qui est. 811 entrées pour 15 copies, oui, une moyenne de 54, ce qui est ok comme moyenne, ce qui n'est pas un super beau démarrage quand même pour un premier. Il est d'ailleurs talonné par Et plus si affinité, la dernière comédie, avec notamment Pablo Poli, qu'on a reçu il y a 15 jours. On vous invite à réécouter l'émission. C'était il y a 15 jours, il me semble, peut-être pas 3 semaines. Qui fait 795 entrées pour 17 copies, donc une moyenne honnête de 47. Et il est talonné encore plus près par Sidonie au Japon, dont on vous parlera certainement la semaine prochaine.
N'est-ce pas, Alban?
Le dernier film avec Isabelle Huppert, qui part au Japon, parce que pourquoi pas, qui fait 792 entrées pour 19 copies, donc une moyenne de 42, mais qui reste quand même assez honorable.
C'est la saison pour voyager au Japon.
C'est vrai.
Les cerises sont en fleurs.
La saison des Hanabi. Et enfin, la fin... le perdant de la semaine. J'en perds mes mots. C'est un film qui s'appelle Dieu est une femme. C'est probablement un peu trop progressiste parce qu'il ne fait que 17 entrées pour une copine, donc une moyenne de 17, ce qui est pas si mal pour un perdant de la semaine. Ça a l'air d'être un documentaire assez rigolo sur d'obscurs documentaristes qui ont tourné, enfin pas si obscurs que ça en réalité, qui ont tourné un documentaire dans des tribus andines de sociétés matriarcales dans les années 70. Le film a été perdu puis retrouvé, et là maintenant on essaye de retrouver le film et de le remontrer aux gens de cette tribu aujourd'hui, dont certains se rappellent du tournage. Ça a l'air d'être assez amusant. Je vous conseille peut-être d'aller le voir.
Peut-être qu'on s'est trompé de salle parce qu'il est diffusé dans une salle à Paris qui était celle à côté de celle où on est allé voir Il pleut dans la maison.
Déjà, tu spoil déjà.
Je spoil ton avis. mais ce sera un débat puisque tout le monde n'est pas d'accord. Émile, pour ton petit retour, tu as une information à nous donner ?
Exactement. Alors, vous avez jusqu'à samedi pour aller voir un cycle consacré à Deborah Stratman qui a commencé hier soir au musée du Jeu de Paume, donc dans l'auditorium au niveau moins 2. Donc Deborah Stratman, qui est-elle? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, et pourtant c'est une cinéaste américaine extrêmement importante et prolifique, qui avait commencé en fait en faisant des études de sciences, et suite à une bifurcation heureuse, s'est retrouvée à étudier l'art et le cinéma. Elle fait des films qui sont à la croisée justement de la recherche scientifique, de la poésie et de l'anthropologie. Alors hier soir...
Comme certains Jean-Paul Levé.
Exactement, alors ça pourra plaire à certains autour de cette table. Hier soir, donc, il y avait deux de ses films qui étaient projetés. Shrimp Chicken Fish, qui est un hommage aux Blues Brothers, qui est un film de 5 minutes qu'elle a tourné à Chicago, et The Boulevard, qui est un autre film qu'elle a tourné dans la région de Chicago sur des gens qui font des courses sauvages dans la rue en Corvette et en Mustang, et donc vous allez avoir tout un tas de ces films qui sont projetés, et elle sera présente pour faire des débats à l'issue des séances. Donc voilà, vous avez jusqu'au 7 avril pour découvrir Deborah Stratman.
Eh ben, on vous encourage, il vous reste 4 jours pour aller la découvrir. Le premier film dont on parle ce soir, c'est donc Il pleut dans la maison de Paloma Sermonday. On écoute... Ah non, pardon, pas du tout. C'est Black Flies de Jean-Stéphane Sauvert. Je suis en fait dans le futur. On écoute la bande-annonce.
You believe in heaven? I don't know if I believe in heaven. But I believe in hell. One, two, three.
Been on the job?
A few weeks.
This guy from Colorado. I'm putting him in with Rut.
I usually get here 10 minutes early. I like to ride with partners who do too.
Yes, sir.
Kill me. He'll die if you don't kill me.
Go, go, go!
Black Flies, le nouveau film de Jean-Stéphane Sauvert. Yuri nous en avait déjà parlé à Cannes pour nous en dire du mal. Émile, qu'est-ce que ça raconte avant de nous donner ton petit avis?
Alors, je vais être le secouriste de Jean-Stéphane Sauvert, justement. Donc, ça parle de Holly, qui est un jeune secouriste à New York, dans les coins assez chauds de Brooklyn, comme tu l'as mentionné, et qui fait équipe donc avec un urgentiste bien plus senior, qui s'appelle Ruth, qui est joué par Sean Penn. Et donc, ils vont être ensemble confrontés à toute une série d'accidents plus ou moins graves. Et le jeune Holly va faire ses armes au fil des différentes scènes et qui progressivement vont l'emmener vers une sorte de conflit moral. Alors, c'est une adaptation d'un roman de Shannon Burke qui a été publié chez Sonatine, qui s'appelle 911, et c'est surtout la troisième fiction, on va dire, pour le cinéma de Jean-Stéphane Sauvert, qui avait fait des films pour la télé, qui avait fait des documentaires aussi, et je trouve que c'est une adaptation qui est extrêmement pertinente pour trois raisons. Déjà, alors Jean-Stéphane Sauvert, même si c'est un cinéaste français, il est basé à New York depuis un certain temps et on sent qu'il a une vraie connaissance d'un New York absolument pas glamour, qu'on voit très très peu au cinéma, et il a vraiment un attrait pour cette exploration-là. On voit vraiment les conséquences, que ce soit au niveau sanitaire, mais aussi au niveau psychologique du Covid, à quel point on a une violence dans une ville comme New York, du système de classe, et à quel point ça peut amener des individus vraiment au bord d'un certain gouffre. Et le film filme ça, je trouve, avec un attrait extrêmement saisissant pour justement les béances d'une grande ville. On a un rapport aussi, ça je m'attendais pas du tout à cet aspect-là du film, mais ça m'a beaucoup plu. Une relation extrêmement fouillée en fait entre le personnage joué par Ty Sheridan et son mentor qui est joué par Sean Penn. Et on aurait pu penser, voilà, c'est très facile de faire un film qui va glorifier les soignants qui ont été, voilà, on parle beaucoup des premières lignes du Covid. Le film est beaucoup plus complexe que ça en fait. Le film a vraiment toute une part d'exploration de la dualité qui m'a beaucoup plu. Et ce que je trouve très touchant dans le film, c'est qu'en fait on voit que ce jeune Ty Sheridan est un peu hésitant et physiquement il ressemble beaucoup à Sean Penn, qui a le visage complètement buriné par le soleil, qui est toujours un peu claudiquant à travers le film, et on voit qu'il se projette déjà, il se dit voilà, dans 40 ans je serai probablement cet homme là et il y a comme ça un rapport de miroir déformant qui est très fort. Et puis il y a un troisième aspect qui m'a plu, et ça on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est en fait à quel point le film se passe, je pense, à 70-80% de la nuit. Et il y avait énormément de grands films qui sculptent la ville de la nuit, que ce soit à Tombeau ouvert de Scorsese, qui avait déjà un urgentiste comme personnage principal, Collateral de Michael Mann, et on sent qu'il se rapproche un peu du travail de Mann dans sa volonté de montrer, voilà, des hommes qui sont face à ce que la société a de plus immonde monde, de plus brutal, de plus violent, et qui essaye de garder un pied sur terre. Voilà, c'est un film qui a plein d'aspérités, qui laisse en même temps une grande part à l'imaginaire. Il y a quelques faiblesses, je trouve qu'il y a certaines scènes qui plongent un petit peu vers le mélodrame. Mais malgré ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Et du coup, vu que le film se clôt sur L'Or du Rhin de Wagner, j'imagine que ça a plu à Laurent.
N'est-ce pas, Laurent ?
Tu me prêtes des, à la fois des, comment dire, des connaissances, des connaissances musicales qui sont un peu supérieures aux miennes, et tu me prêtes des intentions qui ne le sont pas. Je suis ravi de discuter de ce film avec toi, Émile, parce que c'est très beau de voir toujours quelqu'un plein de bonnes intentions et plein de bonne volonté parler de ce film, et tu en parles bien, et je trouve que tu montres en fait les seuls points à peu près positifs du film, sans oubliant complètement les gros problèmes qu'il y a tout au long du truc. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire concrètement. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un film où dès la deuxième scène, on se rend compte qu'il y a un problème, parce que c'est la même que la première. Et que c'est construit comme une espèce de succession de scènes, un peu les unes derrière les autres, où on va voir des drames et des moments plus ou moins violents et gênants comme tu l'as dit, de ces bas-fonds en fait de New York, et de ce côté vraiment pas glamour du tout. Même peut-être, je me demande jusqu'à quel point ils en font pas un tout petit peu des caisses, même s'il y a quand même un gros travail, je trouve, sur le casting et sur les seconds rôles et sur les troisièmes rôles qu'il y a dedans, qui sont super bien castés et qui font hyper bien le boulot, et que les acteurs dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Enfin, y a, et que même les personnages sont assez intéressants, qu'il y a un truc qui marche. Juste, en fait, il y a deux choses qui que je trouve insupportables dans le film, c'est que déjà, il y a pas d'histoire, hein, globalement. Les personnages, ils évoluent pas, il se passe rien. On a vraiment une espèce de volonté de description, pas une volonté de raconter quelque chose. Et du coup, je trouve que c'est d'un ennui mortel. Et le pire problème, je trouve, c'est que c'est affreusement mal filmé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un truc où dès le début, on va filmer des gens à 10 cm et avec des shaky cam, en faisant croire qu'on est vraiment au cœur de l'action et que c'est très bien. Mais ça devient très vite très compliqué. Déjà, faut avouer que c'est quand même un trope qui est assez cliché aujourd'hui, je trouve. C'est des trucs qui existent depuis tellement longtemps, et en fait
la caméra épaule, donc
ouais, enfin vraiment filmer des gens comme ça aujourd'hui, je trouve qu'il y a un truc vraiment daté, et que ça rend pas le film intéressant du tout, en dehors peut-être de la toute première scène où vraiment pour le coup on comprend qu'on est au contact et dans le corps presque de ce personnage principal qui est complètement paumé, qui arrive sur une scène vraiment grave avec des gens qui se sont tirés dessus et avec des blessés très graves, où là je peux justifier un peu le l'utilisation de ce procédé, mais que je trouve, enfin, dont on use et abuse pendant tout le film, au point où ça devient pénible, et où en fait ça manque. En fait, je trouve que ça montre une sorte de certain manque de créativité de la part du réalisateur pour filmer ce qu'il a envie de nous filmer. Et ce qui fait que on a une espèce de truc de deux heures où on va avoir un peu tout le temps les mêmes scènes, avec des moments qui sont un peu entre ces scènes de secourisme, qui sont un peu plus intéressantes parce qu'on va essayer de chercher un tout petit peu les personnages, mais franchement je trouve que ça va pas très très loin, parce que en fait le problème c'est qu'il leur arrive pas forcément grand chose à ces personnages, et que malheureusement il y a jamais vraiment de réflexion sur comment est-ce qu'on va montrer ce qu'on essaie de faire, en dehors de montrer les gens à 10 cm et regarder à quel point genre leur quotidien c'est dur et tout ça. Je trouve ça vraiment...
Tu vois pas de Scorsese ou de Michael Mann là-dedans ?
En fait, en plus, le problème, c'est que si je vois où tu veux en venir quand tu parles de Scorsese et de Michael Mann, et c'est pas faux, je pense que c'est des références qu'il a, et que, en fait, le truc, c'est que je suis pas du tout d'accord avec toi sur le film, je suis assez d'accord avec ce que tu racontes. Je vois ce que tu as un peu vu, mais je suis pas du tout aussi indulgent sur les défauts. Je peux pas accepter des défauts aussi lourds que ça, et c'est dommage parce que, en effet, il y avait, je pense, un sujet, mais il aurait fallu réécrire le film quasiment entièrement, en fait, pour qu'on arrive à rentrer dans cette histoire, pour qu'on arrive à rentrer chez ces gens, parce que là vraiment moi je reste complètement à côté. Et oui, si, peut-être un effort sur la réal quand même, là c'est lourd.
Alors tu parlais des seconds rôles, je voulais juste passer une petite case dédiée, Michael Pitt qu'on a vu dans Les Innocents de...
C'est vrai, putain,
et
c'est lui.
Et puis là, 20 ans après, joue un ambulancier complètement starbé sous stéroïdes, méconnaissable.
Oui, c'est vrai que c'est lui.
Et parce qu'on a parlé de Ty Sheridan et Sean Penn, mais lui, il tient vraiment le troisième rôle et il est très, très balèze, je trouve.
Mais honnêtement, il y a un vrai travail sur le casting et les acteurs, enfin, les mecs qu'on voit se faire secourir, les camés, les mecs de gang et tout, ils sont super. Juste, putain, ça suffit pas, quoi. Juste, moi, je reste sur ma fin, ça suffit pas.
Bon, on vous mettra pas d'accord sur ce Black Flies. Est-ce que c'est un collatéral ou à tombeau ouvert, ou au contraire juste de la shaky cam gratos. Allez vous faire votre avis en salle. Je m'avançais un peu tout à l'heure en vous disant qu'on vous parlerait d'Il pleut dans la maison de Paloma Sermondai. On écoute la bande-annonce.
Je dois avoir 18 ans, je dors avec mon frère. Déjà, il ronfle et en plus de ça, il pue des pieds.
Mais dors en bas. Hein.
Ma mère n'est pas très présente et l'état de la maison, c'est compliqué. Tu penses que c'est possible d'avoir un contrat à l'année ?
Un contrat étudiant ?
Non, justement, j'aimerais bien aller vivre ailleurs avec mon petit frère.
Il a quel âge ?
15 ans.
Avance ! Attends, j'ai un caillou !
Je m'en fous. Salut. Vraiment des guides de Tokyo.
Sophie Kat, on est content de te retrouver dans le studio d'Extérieur
Nuit. Ça me fait très plaisir, je ne m'entends pas.
Notre petit, tu ne t'entends pas dans ton casque, mais non. Nous on t'entend très bien.
Alors,
en tout cas.
Bien,
tu es notre petit soleil pour nous parler de Il pleut
sûr,
dans la maison.
Oui, oui, bah oui, parce que moi j'adore faire la pluie et le beau temps sur cette émission, effectivement, pour reprendre ta jolie intro. Écoute, donc Il pleut dans la maison, donc, c'est un film de Paloma Sermondai qui était à la base documentariste, enfin qui s'est illustré d'abord dans le documentaire. C'est donc son premier film de fiction et ce qui est, en fait, elle avait fait un court-métrage autour, enfin qui reprenait l'intrigue ouais, voilà, de ce long-métrage. Et c'est donc les deux mêmes comédiens qui sont à la base, à part ces deux films, du coup, totalement amateurs. Et donc, voilà. Et toute la troupe, en fait, de comédiens est amateur. Et donc, ça raconte cet été, ce truc classique du récit, que ce soit cinématographique ou littéraire, de l'été qui va tout changer, en fait. Et là, c'est avec, donc, Purdy et Mackenzie, qui sont donc Purdy, qui est la grande sœur, qui a donc 17-18 ans.
Qui va fêter ses 18 ans.
Qui va fêter ses 18 ans. Et son frère Mackenzie, qui lui a 15 ans. Ils sont laissés à l'abandon dans une maison donc, où le toit fuit. Leur mère, complètement défaitiste et qui est complètement qui les abandonne, totalement absente. Ouais, absentiste.
Alcoolique, probablement.
Oui, bon, voilà, qui va pas très bien. Et donc, c'est vrai que ça raconte un été dans un univers extrêmement particulier, extrêmement précis, de prolétaires et de vraiment de choses qui. Enfin, rien ne va dans leur vie. Tout est compliqué, que ce soit au niveau social, au niveau de l'argent, au niveau tout va mal. Mais ce que j'ai trouvé vraiment très, très beau en fait, dans ce film, alors j'ai bien compris que, sans vouloir spoiler les autres avis, personne n'a trop aimé ici. Mais
Laurent, tu es notre avocat du diable ce soir.
Mais moi j'ai trouvé qu'en fait il y avait quelque chose de très beau justement à la fois dans ce naturalisme, dans cette recherche de quelque chose de très réaliste chez les acteurs, que j'ai trouvé extrêmement bon justement dans cette recherche là et une lumière qui est extraordinairement sculptée. J'ai trouvé que les plans c'était très très beau, qu'il y avait vraiment un jeu avec, enfin vraiment de symbolisme, où presque on retrouve des influences de presque du film noir, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment, il y a une recherche autour de la lumière qui exprime quelque chose et qui exprime l'angoisse de quelque chose qui va arriver, comme voilà, de cet été qui symbolise une fin, qui symbolise l'écroulement d'un monde. Enfin voilà. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, vraiment cette conjonction des deux que j'ai rarement vue et qui m'a paru vraiment convaincante. Alors après, c'est un film très simple qui ne prétend pas aussi être plus que ce qu'il n'est. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé très, très beau, c'est que c'est pas... Il y a beaucoup de modestie, en fait, dans ce geste artistique et en même temps, des vraies choses qui convainquent. Et alors oui, on peut... Il y a des petites choses sur l'intrigue, notamment quelque chose d'un peu facile dans la... Tu trouves qu'il n'y a pas d'intrigue? Bah si, moi je trouve qu'il y a une intrigue, justement. Après, il ne se passe pas grand-chose, c'est vrai. Mais bon, ça, moi j'aime bien les films où il se passe pas... Enfin, il n'y a pas d'autre enjeu que cet été qui nous mène vers quelque chose de catastrophique qui va arriver. Et on sent ce que ça va être, cette catastrophe, c'est justement cette rencontre entre donc Mackenzie et un gosse de riche, pour la faire simple.
Enfin, ça arrive dans le dernier quart d'heure.
Arrive dans le dernier quart d'heure, mais on comprend. Enfin, tout le film pour moi construit une tension pour aller vers ça. Et voilà, on sent que c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est dans la confrontation entre deux classes sociales. Et là, c'est un peu facile la manière dont c'est amené. Effectivement, c'est un peu dans des choses qu'on a déjà vues et revues, il n'y a pas beaucoup de subtilité, mais en même temps, on sent la détresse de ce gamin de Mackenzie, on sent cette espèce d'impuissance qu'il a à communiquer autrement que par la violence, autrement que par une espèce de provocation constante, et tout ça, j'ai trouvé ça qu'il y avait quand même, bon, là, un embryon de quelque chose qui aurait pu être mieux, mais en tout cas, qui me convainquait aussi sur vers où allait ce film, vers où allait cette tension latente qu'on sentait peu à peu.
Mais qui est d'ailleurs une tension qu'on sent aussi entre Purdey et son, oui, son copain Hughes, ils sont pas tout à fait du même milieu, lui part faire des études.
Voilà, donc il y a cette idée de la classe sociale, de la rencontre entre la classe sociale à 18 ans, qu'est-ce qui se passe, est-ce que les amis d'enfance peuvent rester les mêmes amis plus tard, enfin, ou amoureux s'ils sont de deux classes sociales différentes. Et bon, c'est vrai que voilà, c'est pas extrêmement fin ni subtil, mais ça amène quelques petites choses de réflexion et surtout enveloppé dans cette vraie recherche stylistique du film qui vraiment m'a convaincue en premier lieu, quoi, vraiment.
Laurent, est-ce que je copie-colle ta critique de Black Flies ? Il n'y a pas d'intrigue, la scène numéro 1 est aussi la scène numéro 2 ?
Alors, en fait, j'ai plus de sympathie, moi, pour ce film que Black Flies, que je trouve vraiment genre compliqué. Mais par contre, j'aurais la même réaction, c'est-à-dire que c'est sympathique de parler avec toi, d'être toujours comme ça, de voir le bon côté des choses.
On est content d'avoir les anciens parce avec que, un peu d'amour pour le cinéma.
Parce qu'encore une fois, tu oublies les problèmes.
Je suis
assez d'accord avec toi sur la recherche esthétique. Je trouve le film est vraiment joli. Je pense que ça n'a pas été fait avec beaucoup de budget, donc c'est quand même plutôt un joli travail. Je trouve aussi que les acteurs, le fait qu'ils soient pas professionnels, ça se voit pas. Ce qui est en fait ce qu'on cherche à obtenir en fait quand on utilise ce genre de procédé, c'est plutôt bien fait. C'est on sent quand même qu'il y a un peu de travail de ce point de vue là. Après voilà, moi j'ai presque exploré des nouveaux continents d'ennui, quoi. C'est à dire que c'est vraiment tout le temps la même chose, c'est hyper stagnant, les trois quarts des scènes servent à rien, tout est hyper contemplatif. Il y a vraiment des moments où moi j'avais vraiment du mal. J'ai eu l'impression que ça a duré 6 heures, enfin tu vois,
ça a duré
1h20 et ressenti 4 heures, enfin il y a un côté vraiment genre pénible à regarder ce genre de truc, et encore une fois, même procès en fait que je ferai à Black Flies, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec l'idée de faire l'économie d'un scénario, vraiment je peux pas accepter ça, et je trouve que c'est trop facile. Et qu'on a le droit aussi de se prendre un peu la tête pour essayer d'écrire des trucs. Parce que, en fait, comme tu l'as raconté, cette histoire de fin d'été qui va tout changer, etc., c'est un trope qui est hyper classique. On l'a vu dans des tas de films beaucoup plus regardables que ça, en fait. Et le problème, c'est que là, il y a des qualités. On a clairement, je pense, une cinéaste qui travaille. Qui fait des belles choses, même les comédiens, on aurait pu faire quelque chose. Juste, pourquoi vous écrivez pas de scénario? Enfin, pourquoi vous en avez rien à foutre, en fait? Pourquoi c'est pas le sujet? Ça m'énerve, parce que je trouve que ça enlève quelque chose au film, qui est du coup, clairement, va être cantonné à un public assez restreint, très auteur, très art essai, alors qu'en fait, il y avait de la matière, il y avait la possibilité de faire quelque chose de plus intéressant et de plus regardable. Honnêtement, c'est d'un ennui mortel. Et je peux pas. Quand je vais au cinéma, je peux pas accepter de m'ennuyer. Je suis pas d'accord avec ça. Donc.
Très loin des films de Lave Diaz, alors.
Je sais pas, j'en ai jamais vu. Après, bon.
Là, ça dure, c'est ressenti 6 heures, mais ça dure vraiment 6 heures.
Oui, voilà. Non, mais. Non, mais tu vois, sur le principe, j'ai rien contre. Mais en fait, je trouve ça. Enfin. Alors Lave Diaz, on va pas parler de Lave Diaz, en plus des films que j'ai pas vus, mais en tout cas, je trouve que c'est dommage parce que c'est juste un manque de travail. C'est ce qui m'énerve, j'ai vraiment l'impression que c'est juste un manque de travail.
Alors, je suis pas je vois la critique que tu fais et je comprends, parce qu'effectivement, il y a pas d'énormes enjeux et le seul enjeu arrive.
C'est pas le problème des enjeux.
Oui, enfin bon, mais je suis pas d'accord sur le. Pour moi, il y a un scénario, il y a quelque chose qui raconte justement cette fin d'été. Alors après. Ça aurait peut-être pu être plus travaillé, surtout sur la question de la classe sociale qui est clairement.
Je pense que tu me détailleras tout ça en off. Mais
très bien, nous ferons ça.
Mais clairement.
Voilà. Cette censure, tu peux t'exprimer.
J'avais oublié qu'on était à Goulag Radio. C'est...
sur les ondes, merci de nous écouter sur les ondes de Goulag Radio. Il pleut dans la maison. Est-ce que. Tu voulais dire quelque chose ? Est-ce que c'est la fin de l'enfance sous une belle lumière ciselée, ou au contraire on s'ennuie autant que les personnages ? Le film était en tout cas présenté à la semaine de la critique lors de la dernière édition du festival de Cannes, et Yuri a rencontré Paloma Sermendai ainsi que les deux comédiens principaux. On écoute son entretien avec eux.
Bonjour Paloma Sermendai.
Bonjour.
Bonjour Purdey et Mackenzie Lombray.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Extérieur Nuit. Paloma, vous avez réalisé le film Il pleut dans la maison, qui a été présenté à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes cette année. C'est votre premier long métrage de fiction. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse du projet, comment vous êtes arrivé à vouloir raconter cette histoire en particulier ?
J'avais très envie de parler d'adolescence.
J'avais déjà fait un court-métrage qui s'appelle Mackenzie, avec Mackenzie Epurdé d'ailleurs, où je traitais vraiment l'enfance en Wallonie. J'avais fait mon documentaire Petit Samedi, où c'était plutôt la vie d'adulte. Et c'est vrai que là, j'avais vraiment des souvenirs d'adolescence qui me remontaient énormément, et j'avais envie de travailler là-dessus.
Et pourquoi, du coup, la fiction s'est imposée? Vous avez, du coup, comme vous avez dit, fait des volets documentaires, entre guillemets, sur cette thématique-là. Qu'est-ce que vous avez donné envie de passer, justement, à la fiction, à vouloir raconter cette histoire d'une manière fictionnalisée, même si le film est quand même très ancré dans une certaine réalité?
Je crois une profonde envie de liberté d'expression, une envie de pouvoir nous libérer un petit peu de cette réalité, justement, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup partagé. Ils m'ont beaucoup parlé de leur adolescence, je les connais bien, je leur ai parlé de la mienne aussi. Et donc c'est vrai qu'on avait cette envie d'adolescence en Wallonie, mais en même temps j'avais envie de pouvoir mélanger toutes ces histoires et vraiment se réapproprier un discours, quoi.
Pardon, Mackenzie, comment Paloma vous a approché avec ce projet en disant vous allez jouer un frère et une sœur dans un film qui est une fiction? Vous êtes frère et sœur dans la vraie vie.
Quand Paloma nous a proposé ça, moi j'ai pas voulu directement y aller parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait à la base. Mais c'est vrai qu'après, en réfléchissant, je me suis dit que c'était une expérience et que fallait la vivre. Donc c'est vrai que j'ai accepté et c'est la meilleure décision que j'ai prise.
Moi, elle me l'a proposé aussi. Du coup, j'ai dit oui directement. Moi, j'ai pas réfléchi. Vu que j'avais déjà fait un court-métrage avec elle, j'avais bien aimé. Je me suis dit que je voulais refaire cette expérience-là et je l'ai refait.
Et qu'est-ce que ça fait de jouer pour vous, avec votre sœur à l'écran, des versions de vous-même qui n'êtes pas vous-même, enfin, des personnages totalement fictionnels? Ou est-ce qu'il y a eu un travail sur la construction avec elle avant le film, justement pour créer ces personnages-là?
Il y a eu de la construction, oui. On est passé par plusieurs étapes. On a dû apprendre à jouer nos personnages. Mais en même temps, c'était pas si dur que ça, vu qu'on était déjà frères et sœurs. Et que du coup, c'est plus facile. Mais moi, je pense que ça a été quand même... On a réussi à les apprendre et à les jouer.
Paloma, vous vouliez parler de l'adolescence, mais il y a aussi toute une notion de cette mère qui est absente, qu'on ne voit quasiment jamais dans le film. Et qui fait que le personnage, du coup, joué par Purdey, doit prendre en charge énormément de choses. Et il y a cette tragédie presque où, en fait, on sent qu'elle va pas vraiment s'en sortir, où on sent qu'elle va avoir vraiment beaucoup de mal à pouvoir s'occuper de son frère. Cet élément-là de dramaturgie, qu'est-ce que vous voulez inspirer? Pourquoi vous avez voulu traiter justement l'absence de parents, en fait, dans cette famille?
J'avais vraiment envie. Je pense que Mackenzie et Purdey sont très matures, et ça, c'est vrai que c'était une belle inspiration pour moi. Je pense qu'ils, pour le coup, ça, ils rejoignent un petit peu leur personnage, c'est-à-dire qu'ils sont déjà très adultes. Et c'est vrai que dans le film, j'avais envie de travailler cette absence de la mère qui est toujours hors champ, et même quand elle est là, elle est assez fantomatique, elle n'est jamais vraiment présente. Et donc c'est vrai que le fait de travailler cette mère très absente, ça a vraiment renforcé presque ce huis clos dans leur relation et ce côté fusionnel qu'ils ont.
Parce qu'il y a justement, le film s'appelle Il pleut dans la maison, parce que ça s'ouvre juste sur une fuite qui pour le personnage de Purdey est une raison de partir, et que du coup le personnage de Mackenzie essaye de réparer pour dire non, on va rester là, c'est notre foyer. Les paysages que vous filmez sont extrêmement arides, très désertiques presque. On a l'impression d'être au Texas parfois. Justement, ce choix de le raconter en plein été, pourquoi vous l'avez placé justement dans cet été caniculaire très sec, alors que justement on parle de pluie dans le titre? Est-ce que c'est un contraste qui vous a intéressé?
C'est un contraste qui m'intéressait. En Belgique, on a connu des grandes inondations, des grands orages en Wallonie, et c'est vrai que j'avais envie aussi de casser un petit peu ce cliché du film social belge où on est toujours dans des villes assez dans la grisaille ou dans les Ardennes. C'est vrai que dans le cinéma belge, on connaît très bien les Ardennes. Et c'est vrai que le lac de l'Oder, c'est un paysage qui est peu exploité. Et souvent, on ne dirait pas la Belgique. Et ça, je suis très contente parce que c'est vrai que esthétiquement, moi j'étais ravie d'arriver sur ces pelouses brûlées, quoi.
Purdey, vous avez travaillé combien de temps sur ce tournage? Combien de temps ça vous a pris en préparation et pendant le tournage?
On a beaucoup travaillé avec Paloma avant ça. Je crois que pendant un an à peu près, on a fait tous des entraînements, entre guillemets, pour nous apprendre...
Ces entraînements, en quoi ça consistait, justement, ce travail en préparation justement du film?
C'était beaucoup pour l'articulation, pour... savoir être face à la caméra sans forcément la regarder, sans la regarder en fait. C'était beaucoup, beaucoup de travail qui nous a beaucoup aidé en tout cas.
Vous êtes allé chercher en vous-même dans des histoires personnelles ou c'était justement d'un exercice complètement de...
Bah, on a eu des exercices, on a appris un peu de nous, on a utilisé toutes les options qu'on pouvait utiliser. Et je pense que on a dû quand même beaucoup s'entraîner, beaucoup de fois recommencer les scènes. Et c'est comme ça que c'est venu. C'est en recommençant, en apprenant, en refaisant qu'on a appris, qu'on a réussi à jouer notre rôle le mieux possible.
Parce que tu vois, dans le film, votre complicité, elle est super. C'est-à-dire que si on ne sait pas que vous êtes frères et sœurs, on ne le devinerait pas. Mais là, en plus, il y a cette complicité-là en plus qui est formidable. Paloma, dans l'écriture du film, justement, combien de temps vous avez mis en fait à écrire cette histoire et à quel point l'histoire s'est-elle aussi faite au tournage, parce que j'imagine que vous venez du documentaire, je ne sais pas du tout quelle est votre méthode de tournage sur de la fiction, justement comment vous avez ramené ces techniques du documentaire et comment cette agilité que demande le documentaire a pu vous inspirer ou vous contraindre, je ne sais pas, dans la création de ce film.
Comme il le disait tout à l'heure, en fait, on a vraiment pris une année de préparation. Moi, je n'ai pas eu de formation de réalisation. En fait, je suis formée plutôt à l'image, à la caméra et à la lumière. Et donc, c'est vrai que mon outil, c'est vraiment la caméra. Donc, pendant cette année, je les ai énormément filmés. Et donc, je faisais des sessions où je les filmais, puis je retournais un petit peu en écriture. Et j'avais vraiment envie de garder la façon dont ils parlent. C'était très important pour
moi. L'un inspirer l'autre, en fait. Les sessions de préparation, l'inspirer l'écriture et inversement.
Tout à fait. Et donc, c'est vrai que j'avais envie de garder ces dialogues et leur parler.
Ouais.
Donc, c'est vrai que je voulais vraiment... on faisait des improvisations que je retranscrivais.
Okay.
Et puis voilà. Mais il n'y a jamais eu de scénario complètement écrit. On est arrivé avec un 60 pages. Donc, il y a un bon tiers du film qui est vraiment improvisé et au tournage je leur donnais des directions, ils ont eu le texte très tard, donc j'essayais vraiment de garder quelque chose de vif
de spontané,
et de spontané, ouais, tout à fait.
Et ce moment de, on va dire, il y a un moment de un peu pivot de violence dans le film, c'est un moment qui est assez surprenant, assez choquant, parce qu'on ne s'attend pas forcément à ce que le personnage de Mackenzie, pour lequel on a beaucoup d'empathie pendant tout le film d'ailleurs, sombre dans cet acte de violence qu'on comprend néanmoins dans la situation qu'il vit. D'où vous est venue cette idée justement de raconter ce moment-là, parce que c'est le seul moment vraiment, on va dire, de drama entre guillemets qu'il y a dans le film. Et voilà, je voulais savoir pourquoi vous avez voulu aller sur ce terrain-là avec ce personnage, l'emmener sur ce recoin.
Je pense que quand on travaille avec des acteurs non professionnels, surtout aussi jeunes, c'est très important de mettre directement le doigt sur leurs points forts et leurs faiblesses. Et chez Peur Day, je sentais vraiment une facilité plutôt au dialogue et plutôt à intellectualiser un petit peu plus le personnage, etc. Là où chez Mackenzie, je sentais quelque chose de plus physique, de plus violent et aussi des émotions un peu plus internes. Et donc j'avais vraiment envie de créer un peu ce crescendo chez lui et cette bombe à retardement finalement.
Qui du coup, on ne sait pas trop si elle va avoir des conséquences par la suite, mais en tout cas, c'est un moment très fort dans le film et justement dans le combat que mène Peur Day dans le film pour justement s'occuper de son frère, le sortir de cette condition, c'est hyper intéressant. Est-ce que vous avez prévu d'en faire d'autres du coup de la suite? Est-ce que c'est le début d'une chronique comme vous avez pu en parler en termes de documentaire sur ce thème avec les mêmes personnages, ou est-ce que pour l'instant c'est le seul film avec,
on s'est dit qu'on le referait peut-être dans 10 ans, donc on verra. C'est peut-être, oui, ça va peut-être être on va peut-être en faire 4-5 comme ça, les voir grandir, vieillir. On va voir.
C'était donc Yuri avec Paloma Sermendai et les deux comédiens d'Il pleut dans la maison. Le podcast est à retrouver sur le site de Radio Campus Paris. Et maintenant, on va écouter la bande-annonce de Los Delincuentes de Rodrigo Moreno.
En la ciudad, cuando te cruzas por primera vez una persona, ¿qué es lo que te pregunta? ¿De qué trabajas?
Román. Moreno.
¿Por eso no quiere trabajar más?
Qui de mieux pour nous parler de Los Delincuentes que notre délinquant en personne, Alban?
Tout à fait. je ne sais jamais réagir. Oui. Alors, donc c'est un film de Rodrigo Moreno, qui est un réalisateur argentin. qui appartient à cette nouvelle génération de cinéastes argentins dont Sophie Catherine va certainement parler.
Je voulais dire de Sophie Catherine fait partie.
Je suis partie
en Argentine en fait.
Pas encore, effectivement.
Mais j'aimerais bien, j'avoue.
Qui revient au cinéma en France après Le Garde du Corps, mais c'était en 2007 et il a tourné un film qui s'appelait Un Monde Mystérieux en 2014, mais je ne sais pas s'il est sorti sur les écrans français. Et là, ça raconte l'histoire de Roman et Moran, qui sont des employés de banque à Buenos Aires et qui, dont l'un des deux décide de faire un braquage, c'est-à-dire de voler de l'argent à la banque. Et ce qui est intéressant dans le film, et je vais y revenir après, c'est qu'il vole le montant qu'il aurait gagné jusqu'à sa retraite. Et il décide de mettre un collègue de la banque dans le coup en lui confiant ce pactole et de se retrouver 3 ans et demi après, une fois qu'il serait dénoncé à la police et qu'il aurait purgé sa peine de prison. Et ensuite, ils auraient pu profiter des sous jusqu'à leur mort, en gros. Le film est... La première info à donner, c'est que le film est assez long. Il dure 3h15, il me semble, 3h20. Mais c'est un film qui est assez... dans lequel tu t'ennuies pas forcément. On parlait de La Vidéaste tout à l'heure. Je pense pas qu'on puisse l'assimiler à ce genre de cinéma. C'est un film où il y a quand même pas mal de rebondissements. Il est composé en deux parties. Une première partie où il y a justement tout cet aspect un peu plus thriller, où il y a le braquage et la fuite et comment et où on va cacher les sous. Et une sorte de deuxième partie un peu plus rêveuse, où on voit les deux héros qui sont un peu plus épris de liberté, qui se baladent un petit peu dans la campagne, la montagne, etc. Mais c'est un film qui est très intéressant parce que Moreno sait faire du cinéma, vraiment. C'est un film où on s'ennuie jamais en termes de mise en scène. Il y a vraiment des idées à chaque plan, à chaque scène. Il y a un moment donné des choses qu'on comprend pas vraiment, c'est-à-dire les deux personnages sont face à face pour se regarder et au lieu de faire un champ contre champ classique, il va toujours faire intervenir des miroirs ou des portes ou des reflets, et c'est vraiment intéressant dans ce que ça dit en fait de la relation des deux personnages. Et tout le film va évoluer un petit peu comme ça, dans les rapports surtout que les deux héros vont entretenir avec des personnages secondaires ou des personnages un petit peu plus éloignés, juste des figurants du film. Et c'est vraiment stimulant en fait en termes d'envie de cinéma et de regarder un film qui fait plaisir à voir pour ses trouvailles de mise en scène. Ensuite, sur le propos, c'est un film qui a forcément un propos politique, c'est-à-dire comment on arrive à s'émanciper du capitalisme, du milieu dans lequel on évolue, du travail, etc. Le film est excellent quand il en parle pas, c'est-à-dire quand il le montre justement avec ses idées de mise en scène, avec cette capacité qu'a Moreno de trouver toujours le moyen de s'en sortir par l'image. Dès que le film commence à parler vraiment, à avoir un propos politique dans ses dialogues et dans son scénario, ça se casse un peu la gueule parce que c'est toujours un petit peu adolescent. Enfin, on a l'impression que vraiment...
Trop frontal
c'est assez frontal et c'est vraiment des trucs qu'on pourrait entendre à Tolbiac avec des converses et du stabilo, quoi. Et...
ça sent le vécu.
Non, mais c'est pas ça. J'exagère un petit peu, je grossis les traits. Mais en fait, c'est dommage parce qu'on sent que le gars est intelligent, qu'il a des choses à dire et qu'il nous les montre bien. Et dès que le film en parle, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Ensuite, sur la deuxième partie du film que j'ai préférée, c'est-à-dire une sorte d'envolée un petit peu poétique, lyrique, je trouve que à la fois c'est quelque chose de vu au cinéma, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, surtout dans la campagne, dans la montagne avec des baignades dans les lacs, etc. Mais c'est fait avec une telle délicatesse que j'avais rarement vu au cinéma. Il y a une sorte de douceur qui accompagne les personnages, qui accompagne les scènes, et vraiment, même si ça dure 1h30, parce que le film est un petit peu divisé en deux, on se prend vraiment au jeu des personnages et on est avec eux, on habite les lieux avec eux, on est dans leur relation à la fois intime, à la fois amoureuse. Parfois il y a un moment le héros du film, en tout cas un des deux héros, a une sorte de vinyle qui l'accompagne tout au long du film parce qu'il veut que soit son ami soit les autres qu'il rencontre au cours du film le garde. Il y a quelque chose de très touchant dans cette sorte de relique en fait de sa vie passée qu'il veut conserver et en même temps qui s'ouvre vraiment aux personnes qu'il rencontre. Il y a une histoire d'amour en fait, une sorte de triangle amoureux dans le film, même si je veux pas tout révéler. Voilà, et ça je trouve que c'est vraiment que des belles idées de cinéma. Encore une fois, c'est des sujets qui sont vus et revus au cinéma, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement joli, c'est tellement tendre qu'il aurait pu durer encore 1h30 de plus que j'aurais pas dit non.
Mais tu sais, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Il n'y a pas de recette éculée. Sophie Cat, toi, ce Los Delincuentes, est-ce que tu partages l'enthousiasme de Alban?
Ouais, complètement. C'est pour moi, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est le côté tendre. C'est vraiment, il y a quelque chose de tellement émouvant et ce que j'aime beaucoup. Alors donc du coup, c'est vrai qu'il fait partie. Enfin, en tout cas, il y a des acteurs dans ce film qui font partie de cette espèce de nouvelle avant-garde du cinéma argentin qui était menée notamment par le collectif qui a fait le film La Flore. Enfin, le film en je sais plus maintenant combien de parties, mais en 10 parties, et chaque film faisait 5 heures, je crois.
Voilà, quelque chose comme ça. Oui, c'est un gros machin.
Voilà. Et récemment, plus récemment, il y avait un autre film qui s'appelait Trenkeloken, que j'ai mis dans mon top des cinémas de l'année, qui était fait par Laura Citarella, qui elle-même faisait partie de ce collectif La Flore, qui était aussi un film en 2 parties. Chaque partie aussi faisait 3 heures à peu près de film. Et donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce cinéma d'auteur argentin. Et donc là, dans ce film-là, il y a des acteurs qu'on a vus dans Trenkeloken, qu'on a vu aussi dans La Flore. Donc voilà, on sent qu'il y a une communication entre tous, et tous ces films, alors certes, sont différents, mais racontent quand même tous une espèce de recherche comme ça de la liberté, mais d'une liberté vécue de manière extraordinairement tendre et en cohésion totale avec les paysages. Et c'est ça qui est très beau, c'est que dans ces films-là, qui durent longtemps, qui s'étirent vraiment, qui prennent leur temps pour exister, il y a cette capacité à emmener le spectateur, non pas dans l'ennui, mais dans vraiment la contemplation totale et dans une espèce de beauté totale de l'instant présent, et qui est extraordinairement rare au cinéma. Et c'est peut-être en ça que je serais j'aurais un avis peut-être un peu différent du tien, Alban, parce que pour moi, c'est pas si souvent vu que ça au cinéma, en fait. Enfin, je vois rarement.
Tu parlais des sujets.
Oui.
Non, mais même. Il disait que le traitement est original, mais pas.
Mais
le...
même le sujet, tu vois, vraiment. Parce que pour moi, finalement, l'histoire que tu nous racontes et l'histoire que nous raconte le film, effectivement, n'est pas ce qui est le principal. Et effectivement, quand ça parle un peu trop, c'est dommage, quoi. Enfin, il s'exprime mieux par les images. Et justement parce qu'il essaye de raconter le présent, vraiment la beauté du présent, la beauté d'une lumière du présent. Et ça, c'est un sujet en soi, quoi, et qui est peut-être uniquement raconté par la mise en scène et pas par le scénario en tant que tel. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose d'assez rare au cinéma, de très rare quand c'est réussi. Et que voilà, c'est vraiment quelque chose que nous offre cette nouvelle génération de cinéma argentin, et qu'on retrouve parfaitement donc, dans ce film-là. Et effectivement, la deuxième partie, je trouve, est plus tenue, enfin plus intéressante, plus belle que la première, qui, moi, m'avait un peu laissé sur le carreau quand même. Mais voilà, c'est vraiment un très très beau film, et dans lequel on a effectivement, enfin, c'est un cocon, on a envie d'y rester, de rester avec ses personnages,
trois,
de
six
discuter.
Heures.
Mais oui, non, mais franchement, on a envie d'être avec eux tout le temps, quoi. C'est vraiment un très très beau film. Ouais.
Juste pour revenir sur, je disais qu'effectivement c'était très bien traité, il y avait une très belle mise en scène. Je veux aussi préciser que les images sont vraiment très très belles. Enfin, je viens de regarder en même temps le directeur de la photographie qui s'appelle Alejo Maglio. Et voilà, c'est vraiment un film. Il y a des images assez époustouflantes. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça au cinéma. C'est tourné en pellicule et une sorte de grain avec des couleurs très bien. Tout est bien pensé en fait. Et je trouve que ça aide aussi à tenir les 3 heures de film, parce que à chaque plan, on découvre une image qu'on a envie de garder près de soi, quoi. Et du coup, c'est assez. C'est assez stimulant en fait pour les yeux de voir un film certes long, mais avec des images très bien pensées et très léchées à chaque fois.
Et ben on vous encourage à aller découvrir ce Los Delincuentes en salle. Laurent, tu vas aimer ça, toi, un film de 3h15 contemplatif. Surtout, va le voir.
C'est pour moi.
Non, tu as été
voir.
Vraiment,
ça a l'air cool quand vous en parlez, je trouve ça cool. Mais tu me diras, bon.
Mais tu trouvais que c'était cool quand Emile parlait de Black Flies et quand Sophie Gatt parlait d'Il pleut dans la maison, donc ça ne veut rien dire. Non, toi, tu es allé voir Drive Away Dolls, film du frère Cohen, Ethan Cohen. The case, Santos. Not on your life. Hello, girls! It's the last body shot competition, so we are gonna salt you up. I've had it with love. I don't believe it's relevant to the 21st century lesbian. Laurent, tu es donc allé voir ce Drive Away Doll filmé par un seul des frères Cohen, Ethan.
Un seul des frères Cohen qui... en fait quand même un peu la même chose que l'autre des frères Cohen.
Oui, quand ils sont séparés, finalement, on se rend compte que...
Parfois, on se rend compte que c'est pas si différent.
Il n'y a pas un escroc entre les deux, ça c'est déjà une bonne nouvelle.
Ça raconte l'histoire de Jamie et Marianne, qui sont deux amies, toutes les deux lesbiennes, qui ne sont pas en couple, qui se retrouvent, pour diverses raisons, à partir en fait, de chez elles, donc Philadelphie, pour aller à Tallahassee, dans le nord de la Floride. Dans une espèce de road movie où elles vont devoir descendre une bagnole jusque là-bas, parce que en fait elles n'ont pas de voiture, et donc c'est un système en fait qui existe aux États-Unis. En gros, on prend des voitures, on les descend dans certains lieux. Sauf que le problème, c'est que cette voiture-là, il y a un objet mystérieux qui est recherché par des gens peu recommandables, et donc elles vont se retrouver en fait poursuivies à cause de ce qu'il y a dans cette voiture, alors qu'elles ne sont pas au courant.
Un peu comme le pitch, le commandeur le laisse un peu présager. On est plutôt dans le côté comédie des frères Coen, c'est-à-dire que c'est toujours un peu pareil avec les frères Coen. Enfin, il y a soit les films très sérieux, soit les films comiques. Là, on est plutôt dans une comédie.
C'est plus Burn After Reading que No Country for Old Men.
C'est beaucoup plus Burn After Reading que No Country for Old Men. Et je dirais que c'est peut-être un peu là où moi le film finalement m'intéresse, mais sans plus, c'est que en réalité je suis pas forcément super fan moi des comédies des frères Coen. Tout simplement ça me fait pas beaucoup rire. Je pense que c'est pas d'ailleurs la manière dont ils, cherchent à faire de la comédie. Ils essayent plutôt,
qui cherchent pas à faire rire.
Non, mais dans le sens où ils cherchent à faire des choses un peu loufoques, un peu plus fun, avec des personnages un peu étranges et un peu caricaturaux. Ils vont chercher gratter dans des coins de l'Amérique qu'on n'imagine pas forcément, des choses comme ça. Ce qui est en fait un peu fait, je trouve, dans ce film-là est plutôt réussi, c'est-à-dire que c'est un film qui se passe en 1999, donc c'est vrai que les milieux lesbiens dans les différentes villes des États-Unis traversées par les deux héroïnes en 1999, c'est pas un milieu que j'imagine forcément, ou que je connais, ou même qui a été beaucoup porté au cinéma, en tout cas à ma connaissance. Parce qu'évidemment, pour aller en Floride, elle passe par la Géorgie, elle passe par des endroits un peu improbables, où évidemment, je pense que la scène lesbienne était probablement pas très développée. Mais du coup, il y a un côté un peu comme ça qui tire dans les mêmes ressorts, finalement, des comédies classiques des frères Coen, du Burn After Reading, je trouve que c'est un bon exemple. Parce que il y a de ça et je trouve que c'est fait un peu de manière assez amusante et un peu sans prétention, c'est-à-dire que il y a la volonté de faire exister ces personnages qui sont très haut en couleur, qui en font un peu des caisses, du coup c'est assez drôle, il y a des situations très loufoques, très absurdes, parce que évidemment tout le monde est un peu débracassé et tout le monde a un peu fait un peu n'importe quoi, et donc il y a un côté que je trouve assez amusant dans ce film, parce que ça fait une petite heure et demie, même pas je crois, il y a des bonnes actrices qui jouent très bien, il y a des personnages qui sont amusants, il y a pas forcément beaucoup plus que ça, mais en même temps ça nous fait passer plutôt un bon moment. Est-ce que c'est essentiel? Non. Est-ce que c'est dispensable? Oui. Est-ce que c'est amusant? Plutôt. Donc pour les gens qui aiment bien ce genre de cinéma des frères Coen, ils vont à mon avis le retrouver dans Drive Away Dolls. Donc pourquoi pas.
Tu nous parlais des deux comédiennes,
Margaret Qualley et
Géraldine Viswanathan,
en effet, qui est super. Il y a aussi Benny Feldstein, il y a aussi des caméos pas possibles de Pedro Pascal et de Matt Damon. Il y a des choses amusantes quand même, et globalement c'est bien fait et bien pensé, donc si on aime ce genre de cinéma, pourquoi pas.
Émile, est-ce que tu es raccord avec Laurent sur ce Drive Away Dolls? Je te sens un peu plus bougon.
Oui, disons que je suis d'accord sur le fait que c'est vraiment un film mineur du frère Coen, puisqu'il y a un schisme donc, dans la planète cinéma. Moi, je pense que je suis plutôt de l'équipe Joël, c'est-à-dire son premier film solo qui était pour Apple, La Tragédie de Macbeth, qui renoue plus avec la veine qui m'intéresse, Serious Man, The Barber, la veine existentielle, on va dire. Là, je trouve que ce qui est génial, c'est qu'on voit qu'il s'amuse. Il fait des transitions complètement loufoques. La façon dont il dirige Margaret Qualley, qui est une sorte d'accent du Texas du Sud complètement génial.
Oui, c'est ça, Texas du Sud.
Qui est vraiment très très fort. Le problème, c'est que parfois, il veut nous rappeler qu'il est aussi la moitié du duo des frères Coen qui a eu une Palme d'Or et qui gonfle un petit peu les muscles. Et j'ai un peu l'impression d'être allé voir Joël Robuchon pour qu'il me fasse un hot dog, en fait. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression qu'il essaye de faire un petit peu plus qu'une simple série B. Et là, ça marche plus. C'est-à-dire que moi, ce qui me va, c'est au contraire qu'il assume complètement le côté, voilà, comme tu dis, Burn After Reading, des films complètement buildés, qui vont à fond dans le grotesque. Et là, je trouve qu'il essaye toujours d'avoir un petit peu, comme tu dis, voilà, une sorte de contexte politique, etc. Mais en fait...
Et c'est plus intelligent que le projet du film.
Je trouve qu'il essaye un petit peu de faire deux films en un et qu'il ne sait plus trop où il est un peu le cul entre deux chaises. Et franchement, j'ai vu le film ce matin, je l'ai déjà oublié à 90%, quoi.
Ce qui est jamais très bon signe. Sophie K, toi, ce Drive Away Dolls, est-ce que ça t'a enthousiasmé?
Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Oui, après, je pense que je suis à peu près sur le raccord avec les deux avis qu'on vient d'entendre. C'est que je trouve que c'est très marrant, très loufoque, c'est inspiré par les séries B, effectivement. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amusement constant. On sent qu'il s'est amusé, donc avec aussi sa femme, Trisha Cook, qui a donc coécrit le film. Il y a plein de petites trouvailles comme ça, effectivement, de montage, de mise en scène. Les actrices sont excellentes. Bon, je vais vraiment redire un peu ce qui a déjà été dit. Mais après, Oui, je trouve que quand même, pour le coup, je pense pas que ce soit non plus, on pourrait pas non plus dire que c'est un film dispensable. Je trouve que ça reste franchement un bon film des frères Coen. Après, pas un film majeur, ça c'est clair et net, mais un film qui se mate très sympathiquement et qui fait rire. Et puis, qui a aussi une vision très juste des personnages féminins. Alors, peut-être grâce aussi à l'écriture de Trisha Cook, aussi de personnages féminins lesbiens. Enfin, il y a rien qui est forcé, il y a rien. Enfin, tout semble très naturel, très juste. Il y a une grande beauté de ces personnages féminins, je trouve, qui moi m'a particulièrement plu pour le coup, et qui serait peut-être aussi ce qui me donnerait envie de dire que quand même c'est un film qu'il faut voir en tout cas, qui est intéressant pour cet aspect-là. Et puis surtout, bon, moi voilà, c'est ce qui m'a fait ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que ça m'a fait vraiment rire, que c'était loufoque, déglingué, que rien n'a de sens, enfin rien n'est logique, mais en même temps du coup on se laisse complètement happer dans cet univers où les logiques sont créées en fait par l'univers en tant que tel et par les personnages, qui enfin rien n'est crédible, et c'est ça qui est génial. Et voilà, ça, moi, ça m'enthousiasme beaucoup.
Bon, et bien ce Drive Away d'Ols d'Ethan Coen, un petit bonbon, un petit plaisir, voilà. Sucré, vite tout oublié. Très bien. Et maintenant, de quoi ?
Bon, vite oublié, non. Ça, c'est.
Ça dépend, c'est Emile, c'est nos deux amis.
Voilà,
Toi, tu vas garder ce petit arrière-goût très agréable. On va maintenant vous parler de la seule série ce soir, c'est Palme Royale, créée par AB Sylvia, avec notamment Kristen Wiig. On écoute la bande-annonce. Palme Royale, the most exclusive club in the world, was where I belong. How did you get past security? I came in the back. There are no doors on the back of the Palme Royale? I never said I used the door. I had only been in Palm Beach 2 weeks. We don't know you. I'm Maxine Delcourt. But I already knew the Palme Royale, the most exclusive club in the world, was where I belonged. Evelyn, you are the woman to know in Palm Beach. Est-ce que tu fais partie du club très select de ce Palme Royale?
Pas tout à fait. Palme Royale, ça raconte quoi déjà ? Ça raconte l'histoire de Maxine Simons, qui est interprétée par Kristen Wiig, qui joue le rôle d'une femme qui apparemment ne vient pas de la haute société qu'elle essaye d'intégrer, et qui se rend à Palm Beach pour intégrer une sorte de club qui s'appelle le Palme Royale, et qui veut mener la vie des femmes qu'il fréquente et gagner énormément d'argent et être dans les potins, etc. etc. C'est une série qui est disponible sur
Apple Plus.
Et c'est une série qui est assez agréable à regarder. C'est-à-dire, pour la première raison, qui est j'ai l'impression qu'il y a une série qui a eu du pognon et que les décors sont super bien faits, que les costumes sont super beaux, que voilà, tout est léché dans cette série. Et du coup, c'est assez agréable, dès qu'on met le premier épisode, à trouver une série qui fait pas fake, quoi. On a l'impression d'y être, et c'est assez chouette à ce niveau-là. Ensuite, sur la performance de l'actrice principale, j'ai rien à dire sur Kristen Wiig. Voilà, je trouve qu'elle mène bien ce jeu-là par rapport à cette société qu'elle veut intégrer. Moi, j'ai un problème sur le scénario, c'est-à-dire que je trouve que l'idée de base, même si elle est assez connue, est plutôt pas mal, parce que j'aime bien moi voir ça en série, surtout une histoire qu'on peut développer comme ça sur plusieurs épisodes, où on peut voir un petit peu les détails de chacune des relations et de la mesquinerie un peu de ce milieu-là, et de la méchanceté même de ce milieu-là. Ensuite, le défaut du scénario, c'est que je trouve qu'il est pas assez méchant. C'est-à-dire que moi j'aurais aimé voir quelque chose de plus grinçant, de plus piquant par rapport un petit peu comme, exactement, ouais, j'aurais aimé voir une sorte de White Lotus version Palm Beach, Palm Royale. Et je trouve que voilà, on reste quand même en surface des personnages. Il n'arrive pas à pourfendre le vernis qu'il y a autour de ces personnages. En tout cas, pas assez. Et je trouve que c'est dommage, parce que ça aurait pu être vraiment une série géniale. Donc je pense que je suis aussi un petit peu déçu, parce que en regardant la bande-annonce et en m'intéressant un peu à la série, je m'attendais à quelque chose qui allait beaucoup me plaire, et finalement je pense que je suis un petit peu déçu, et je suis pas forcément rentré dedans. Et c'est dommage, parce qu'il y a plein de bonnes idées. J'aime bien par exemple l'idée que elle trouve un petit peu d'argent, elle trouve un petit peu d'oseille au début pour s'en sortir, parce qu'elle est dans une sorte de baraque avec une dame qui est complètement alitée, on sait pas trop qui c'est, et en tout cas moi sur les deux premiers épisodes je sais pas qui c'est. Et elle lui vole ses bijoux pour se faire de l'argent. Enfin voilà, je trouve que à ce niveau-là, ça pouvait être intéressant, et je trouve que c'est pas assez développé. Et ensuite, il y a plein de choses que j'ai pas encore compris, parce que j'ai pas vu toute la série.
Contrairement à Laurent, toi tu as
vu les 5 épisodes sortis.
Ouais.
Et par exemple, on s'aperçoit qu'elle est quand même mariée avec un gars, ou alors on ne sait pas si elle est vraiment mariée. Enfin, en fait, le personnage, j'ai l'impression qu'il va se complexifier dans les épisodes à venir, et peut-être que c'est bien, mais je trouve que dans les deux premiers épisodes, ça manquait de méchanceté, ouais, ça manquait un petit peu de suspense, de suspense.
Substance.
Et voilà, mais sinon, je pense que effectivement, c'est pas une série. Enfin, il y a quand même des choses à retenir dans cette série. C'est pas du tout un passer votre chemin, mais je pense que voilà, ça aurait pu être un petit peu plus.
C'est un tout petit peu en dessous de tes attentes.
Voilà, exactement.
Laurent, est-ce que ce Palme Royal t'a un peu plus convaincu que toi ? T'as été un peu plus loin, donc peut-être que t'as des éléments de réponse sur les questions soulevées par Laurent, Alban.
J'ai deux trois trucs en plus, mais enfin, on va pas en parler parce qu'on va pas spoiler les gens. Mais en effet, il y a deux trois réponses en fait aux questions que tu te poses. Moi, je trouve que c'est une série qui, en effet, part plus du côté de The Gilded Age ou éventuellement Downton Abbey que du côté White Lotus. Et en effet, c'est vrai que c'est pas très très grinçant, c'est quand même assez... Il y a des personnages un peu qui... Voilà, il y a plus en fait des... On va dire des personnages un peu qui ont de l'esprit, qui essayent de faire des vannes et qui sont un peu machin, mais c'est pas aussi méchant, c'est pas aussi dur que White Lotus. En fait, c'est une série qui tient beaucoup, en tout cas au début, pendant une bonne moitié, en tout cas juste sur le mystère. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnages, clairement, on comprend qu'ils disent pas tout, qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et qu'en fait, il y a des relations entre eux qu'on comprend pas bien, etc., etc. Et je trouve ça toujours assez payant et que c'est assez habilement fait, en tout cas, je trouve, plutôt dans le début de la série. En fait, le vrai problème, c'est que il y a des vraies maladresses, d'une manière générale, dans les personnages, dans un côté vraiment un peu vieillot de certains trucs. Et je vais pas trop te spoiler, mais notamment sur le personnage de Laura Dern, notamment sur certains trucs qui sont un peu vous essayez de ils auraient probablement été plus durs et plus actuels que ça, mais on sent quand même que tout ça a été une vraie volonté de rester assez sage. Notamment sur pas mal de sujets, notamment par rapport au féminisme, notamment par rapport à des trucs comme ça, qui est un sujet qui revient plus en fait au fur et à mesure de la saison, qui reste en fait je trouve un peu léger pour en tout cas dans ce que ça raconte pour le moment. Au final, c'est pas révolutionnaire, mais c'est plutôt bien fait. Tu l'as dit, il y a beaucoup d'argent, donc c'est quand même vraiment joli.
C'est l'avantage des séries Apple.
C'est un peu l'avantage des séries Apple. Je pense en fait que c'est un peu une série que je vais conseiller à ma mère. C'est-à-dire que c'est un peu ce truc. C'est un peu une série pour les darons, quoi. Où, en effet, ça se passe dans les années 60. Il y a des belles robes, il y a des intrigues un peu comme ça, de petits enjeux. Mais c'est un peu plus que ça. C'est un peu plus malin. Il y a des vrais personnages qui se dessinent, il y a des vrais trucs. Donc c'est plutôt une bonne série pour maman, quoi.
On a tous
une maman en nous, j'ai pas l'impression d'être dans le public pour ça, mais je trouve que c'est assez honnêtement fait, même si en fait je suis d'accord avec toi, c'est sage et c'est un peu dommage, ça aurait pu être plus dur parce qu'il y avait matière, et comme tu l'as dit, bon bah c'est très joli, c'est très bien fait, il y a des super actrices, Alison Janney que j'adore, brava, qui est superbe, machin, etc. Bref, mais en effet ça aurait pu être un petit peu plus réussi. Dommage, c'est quand même pas une catastrophe du tout.
Non.
Et c'est parti pour être une série récurrente en plusieurs saisons.
C'est possible, j'en sais rien.
Donc peut-être, peut-être une série qui va... Un slow peut-être. Burner, comme dirait Charlie, un autre ancien de l'émission, qui ne nous a pas fait le plaisir de sa présence, contrairement à vous, Émile et Sophie Cat, c'était trop cool de vous avoir.
On était ravis d'être là.
C'est déjà la fin de Dexter Nuit, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Surtout, vous restez sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de Fresh List. Ils sont juste à côté de nous, est-ce que... Non ? Eh bien, vous restez, vous découvrirez le programme en direct. Et puis nous, on vous dit la semaine prochaine. Bonne soirée.
What a cardio! Hey!